Chapitre 7. La physiognomonie. La physiognomonie, comme son nom l'indique, est une science qui enseigne à connaître le caractère de l'homme par l'inspection des traits de son visage. Le cadre restreint de cet ouvrage ne nous permet pas d'analyser tout ce qui a été dit sur un pareil sujet depuis l'Antiquité. On prétend en effet que les premières études physiognomoniques datent d'Aristote. Nous allons, dans un simple aperçu, résumer les systèmes des deux physiognomonistes contemporains, les plus connus et les plus célèbres. Nous avons nommé Gall et Lavater. Nous nous sommes attachés dans les chapitres précédents à réagir contre tout système tendant à supprimer le libre arbitre, système qui, en détruisant le principe de la responsabilité des actes, rendrait l'homme esclave de la fatalité et d'un destin aveugle. Nous voulons au contraire, en faisant connaître à chacun son caractère propre, en lui révélant ses instincts qu'il ignore parfois lui-même, le mettre en garde contre ses mauvais penchants naturels et l'incliner à les réfréner en réformant au besoin ses habitudes antérieures et son genre de vie. Notre but principal est donc de mettre le lecteur à même de se perfectionner, de se rendre meilleur, et cela en lui fournissant le moyen de s'étudier, de se connaître. Quel résultat ne peut-on tirer également d'une étude attentive des personnes qui nous entourent, que nous coudoyons chaque jour, et pour lesquelles notre degré de familiarité va jusqu'à nous permettre d'employer la chiromancie? Quel vaste sujet d'observation livré à la sagacité du lecteur, qu'il ne reculera pas devant la lecture peut-être un peu abstraite des observations des savants que nous avons nommés plus haut. Nous commencerons par dire quelques mots de la phrénologie qui fit tant parler d'elle à une certaine époque. Gall, qui fut le fondateur et le promoteur de cette branche de la physiognomonie, prétendait en effet reconnaître tous les instincts bons ou mauvais de l'homme, déterminer toutes ses facultés, toutes ses aspirations, rien que par l'inspection de la forme de son crâne. Il partait de ce principe que le cerveau étant le siège de toutes nos facultés intellectuelles et présidant à toutes les émanations de la vie morale, était, par son plus ou moins grand développement, l'indice certain du plus ou moins de développement des facultés morales et intellectuelles du sujet. Enfin, chaque protubérance du crâne correspondant selon lui à une des divisions du cerveau, il s'était composé, par la comparaison de diverses crânes ayant appartenu à des gens connus, une tête modèle qu'il prenait comme base de ses observations. Et il se faisait fort, avec son système, de déterminer par simple comparaison toutes les facultés d'une personne quelconque. Voici en substance le système de Gall. Il divise les organes du cerveau en trois parties distinctes. Voir figure 68. La partie 1 est le siège des facultés purement animales, des instincts. La partie 2 est réservée aux facultés intellectuelles. Et enfin, dans la partie 3, se réunissent toutes les facultés morales. Commençons par examiner les divers instincts et penchants susceptibles d'entraîner l'homme en dépit de sa volonté, ceux dont il lui est presque impossible de se défaire complètement. La partie 1, le cervelet, est occupée tout entière par l'instinct de la sociabilité, de l'affection pour le sexe opposé. Le cervelet est en général plus développé chez l'homme que chez la femme. Chez les misanthropes, les ermites, les solitaires, il est à peine apparent. Son développement excessif indique un tempérament violent, ardent. Les instincts contenus dans les divisions supérieures 2, 3 et 4 peuvent se résumer en un seul, l'amour de la famille, du chez-soi, du bien-être. L'instinct de la destruction, qui, selon Gall, est le plus terrible de tous, celui qui domine et influence tous les autres, est représenté par un ourlet osseux situé un peu au-dessous et en arrière de l'ourlet supérieur de l'oreille, figure 70 et 71, 1. Son développement excessif est le propre des assassins. Combiné avec l'esprit de lutte, l'instinct querelleur, batailleur, figure 71, 2, sa mauvaise interprétation se trouve beaucoup atténuée. Ce n'est plus alors qu'une tendance à verser le sang, canalisée par la raison et qui, contrebalancé par les autres facultés, peut donner au sujet une certaine aptitude à la carrière des armes. L'instinct de l'accumulation, de l'avarice, est indiqué, 1 entre parenthèses, par la saillie plus ou moins accusée que montre la figure 72. Là où on existe par cet instinct, le sujet est enclin à la prodigalité, l'argent ne lui tient pas aux mains, et il le jette volontiers par la fenêtre. La ruse, l'astuce, deux entre parenthèses, tiennent de près à ce penchant. Combinés ensemble, ils peuvent mener au vol. Figure 72. S'ils s'annihilent mutuellement, c'est un signe de prudence poussé à l'excès. La gourmandise, l'ivrognerie, trois entre parenthèses, sont indiquées par une bosse un peu au-dessus de l'oreille. Figure 73. La bosse numéro 4 qui lui confine est l'instinct de la construction, l'ingéniosité. Elle caractérise les hommes habiles, travailleurs acharnés plutôt qu'audacieux, esprit lent mais méthodique. Les facultés intellectuelles, qui résident tout entières dans la partie frontale, peuvent se diviser en 5 parties. Figure 74. La faculté de l'ordre se trouve indiquée au bas du sourcil, entre parenthèses. Celle du calcul, à l'extrémité tout à fait supérieure, deux entre parenthèses. Le don de la parole, trois entre parenthèses, est indiqué par deux saillies plus ou moins accusées du front. Il est propre aux orateurs, dont on a souvent remarqué le front bossué, tourmenté. La faculté comprise dans la partie 4 est celle de la juste appréciation du temps, des distances, des rythmes. C'est la bosse des musiciens. Enfin, le caractère personnel, l'esprit d'individualité du sujet, sa tendance à se distinguer du commun des mortels, sont indiqués par le bourrelet antérieur du sourcil. 5 entre parenthèses. La troisième division, qui embrasse toutes les facultés purement morales, et est de beaucoup la plus importante, comprend les organes cervicaux logés dans la partie supérieure du crâne, ainsi qu'ils sont portés à la figure 76, page suivante. En premier lieu, nous remarquons la volonté, 1 entre parenthèses, qui, combinée avec l'espérance, 2 entre parenthèses, fait les hommes forts et énergiques. L'assemblage de ces deux facultés avec celle de la droiture, de la conscience, de l'honnêteté, 3 entre parenthèses, est la disposition la plus heureuse du crâne. La faculté de la soumission, 4 entre parenthèses, qui, si elle est trop prononcée, peut entraîner jusqu'à la servilité, fait suite à celle de la volonté. Elle est l'intermédiaire qui mène à la bienveillance, à l'indulgence, que caractérise la protubérance supérieure du front. Figure 75 et 7 entre parenthèses, figure 76. Les autres divisions, qui ne sont du reste qu'accessoires, servent à désigner les diverses facultés. D'admiration, 6 entre parenthèses, de gaieté, 8 entre parenthèses, d'enthousiasme, 11 entre parenthèses. L'amour-propre, le désir de plaire, se trouve à la partie supérieure et postérieure du crâne, 9 entre parenthèses. Il est voisin de l'orgueil, 12 entre parenthèses, et souvent il est difficile de les distinguer l'un de l'autre. Enfin, la prudence, la circonspection, 10 entre parenthèses, complètent l'ensemble. Malheureusement, ce système, fort ingénieux en lui-même, pêche un peu par la base. Quelques-unes des récentes découvertes de la physiologie expérimentale ont démontré, en effet, que les bosses de la botte crânienne ne correspondaient pas exactement à la forme intérieure et au volume même de la matière cérébrale qu'elles recouvraient. On s'est aperçu que la plus grosse des têtes humaines n'était peut-être pas plus remplie et que bien souvent, les meilleures dispositions extérieures ne répondaient nullement à la perfection qu'elles faisaient supposer chez ceux qui en étaient pourvus. En un mot, on reproche à Gall d'avoir pris trop souvent le contenant pour le contenu. Nous allons passer maintenant à la physiognomonie proprement dite, au système de Lavater que nous esquisserons seulement à grands traits afin de ne pas entraîner plus loin que ne le comporte notre programme. Système de Lavater, physiognomonie proprement dite. Le système de Lavater est beaucoup plus étendu. Il embrasse en effet non seulement l'étude de la figure, mais aussi celle de l'ensemble du corps. Rien dans tout l'aspect extérieur du corps humain ne semblait inutile à ce profond observateur qui, par ses remarques aussi multiples qu'intéressantes, contribua à faire de la physiognomonie une véritable science et lui assigna le rang prépondérant auquel elle avait droit. Puisqu'il est aussi impossible, disait-il, de trouver deux caractères d'esprit parfaitement ressemblants et de rencontrer deux visages d'une ressemblance parfaite, la différence extérieure du visage et de la figure doit nécessairement avoir un certain rapport, une analogie naturelle avec la différence intérieure de l'esprit et du cœur. Sur ce principe, il base tout son système et l'appui de profils, de bustes, de silhouettes d'hommes connus et pris comme type. Nous allons récapituler, d'après lui, les divers rapports qu'entretiennent les facultés intérieures et les formes extérieures. Tout d'abord, il croit à la première impression, à l'espèce d'attraction qu'exerce sur nous, d'une manière générale, tel visage plutôt que tel autre, et il estime qu'un individu, doué d'une figure régulière, agréable, a toujours plus de chances de plaire qu'un autre aux traits heurtés, bizarres, trop accusés ou sans caractère. D'où, selon lui, impossibilité à un coquin d'emprunter la figure et les traits d'un honnête homme. Ce principe, sans être absolu, a du vrai. Il existe des physionomies vers lesquelles on se sent entraîné instinctivement et d'autres qui ont le don de vous inspirer une profonde répulsion. Figures 77 et 78. Ceci posé pour l'ensemble, voyons maintenant comment les détails peuvent modifier cette règle. Nous ne nous étendrons pas sur la forme de la tête dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs au chapitre précédent. Cependant, la tête étant le point de départ du caractère général, nous ne pouvons faire autrement que mentionner les diverses observations de l'avatar à son sujet. Une tête trop petite est un signe de légèreté d'esprit, d'insouciance. C'est la tête de Linotte dans la vraie acceptation du mot, figure 80. La tête carrée, aussi large en bas qu'en haut, est un signe d'obtusité d'esprit et d'entêtement, figure 81. La tête trop grosse, hors de proportion avec le corps qui la supporte, indique sinon la bestialité, au moins l'inintelligence. La tête ronde est l'indice de la bonhomie, figure 82. La tête plate, de la ruse et de l'astuce, figure 83. Le front, aux lignes duquel nous avons d'ailleurs consacré un chapitre, voire métaposcopie, est également un sujet précieux d'observation physiognomonique. Haut, il est souvent la marque d'une intelligence supérieure, surtout s'il est traversé d'une veine gonflée qui le coupe perpendiculairement. Le front étroit est le front des gens de l'esprit positif, mais un peu borné. Le front bas, déprimé, est un signe de fausseté qui se complique de poltronnerie, de lâcheté, s'il existe une cavite, une dépression au milieu. Surplombant ou perpendiculaire, c'est la stupidité, l'idiotisme, figures 84 et 85. Les yeux qui sont le miroir de l'âme, ne l'oublions pas, ont, plus que toutes les autres parties du corps, exercé la sagacité de l'avatar. Aux yeux bleus et doux, il accorde la bonté, la douceur. Aux yeux noirs ou bruns, la fermeté et la décision. Ces deux grandes divisions établies, il devine le génie dans les yeux d'un brun jaune. Les yeux verts sont l'indice de la constance, de la générosité, de la bravoure. Bleu clair sont les yeux des paresseux, et les yeux bleu foncé, de cette teinte que l'on est convenu d'appeler bleu faïence, caractérisent des natures riches, bien douées. Les yeux gris-bleu, à la pupille longue et perpendiculaire, rappelant celle des chats, sont l'indice d'un caractère féroce et astucieux en même temps, figure 87. Les yeux à paupières épaisses et bien fendues appartiennent aux gens à tempérament sanguin et souvent à des hommes remarquables. Les paupières minces, s'ouvrant sur de grands et beaux yeux, sont l'indice du bon goût, de la galanterie et quelque peu de l'orgueil. Comme règle générale et pour en terminer avec les yeux, nous ajouterons que les yeux petits et vifs sont toujours l'annonce d'un tempérament remuant, actif, d'un esprit rusé et malicieux. Les grands yeux appartiennent le plus souvent aux gens débonnaires, excellents. Des paupières lourdes et flasques sont presque toujours l'indice de la sensualité, de la bestialité. Clignotante, c'est ou une faiblesse de constitution ou l'empreinte d'un caractère faux et méchant. Trop minces, c'est la raideur, l'inflexibilité. Elles abritent des yeux hautains, impérieux, habitués au commandement. Les sourcils bien dessinés, épais, lisses, annoncent un caractère droit, un jugement sain et profond. Bien arqués, c'est le signe de la bonhomie. Horizontaux, en coups de sabre, ils indiquent de l'énergie. Placés trop haut, c'est la bassesse, la cruauté, pouvant aller jusqu'à la férocité si l'arcade sourcilière est bien en relief, figure 88. S'ils se rejoignent de façon à former un accent circonflexe, chacun sait que là est le véritable emblème de la jalousie, figure 89. Enfin, les sourcils rudes, broussailleux, dénonce un caractère vif et brusque, mais souvent sans méchanceté aucune. Les bonnets sont rares, c'est un fait connu. La perfection est d'ailleurs difficile à définir en pareille matière. Quelques-uns penchent pour le nez droit, le nez grec, qui indique un esprit sérieux, un caractère honnête et droit, figure 90. Le nez aquilin, ou nez en bec d'aigle, est le nez des gens à l'esprit dominateur, inflexible, figure 91. Le nez épais, large, est un indice de faculté supérieure. Les narines échancrées appartiennent aux esprits doux, dociles, au caractère conciliant. Les grands nez indiquent la probité, l'honnêteté et annoncent en même temps une bonne santé. Les nez camus dénoncent des passions basses, de la cruauté, de la paresse, de l'ivrognerie, figure 92. Toute une collection de vices dégradants et de passions honteuses, figure 94. Enfin, l'avatar prétend qu'un beau nez est compatible avec une mauvaise nature. Mais nous ne saurions être aussi affirmatifs sur un pareil sujet, toute règle souffrant des exceptions et les règles de la physiognomonie plus que toutes les autres. De la bouche, peu de choses à dire. Chacun sait que des lèvres épaisses, lipues, indiquent la sensualité poussée à l'extrême, la gourmandise et la voracité. Les lèvres minces appartiennent aux gens méticuleux, ordonnés et plus particulièrement aux avares. La lèvre supérieure avance-t-elle, c'est un signe de bonté. Pour la lèvre inférieure, cette disposition caractérise l'insouciance, l'indifférence. Ceux qui tiennent d'ordinaire la bouche fermée, serrée, sont des gens résolus. Le caractère indécis, pusillanime, est dévolu à ceux qui marchent toujours la bouche ouverte. On les caractérise sous le nom de gobe-mouche ou de badaud, figures 93 et 95. On en rencontre souvent le long des promenades publiques et à la musique militaire devant les petites villes de province, devant les étalages à Paris ou sur le haut des quais à regarder couler l'eau. Être nul, qu'aucune affaire ne réclame, qu'aucune passion n'appelle et dont la principale préoccupation consiste à contempler le vol des mouches pendant l'été ou la chute de la neige pendant l'hiver. Les joues sont également matières à observation. La sécheresse de cœur est le lot des gens à joues maigres et rentrées, et la jalousie de ceux qui ont les joues triangulaires et creuses en même temps. Les joues charnues sont le propre de la sensualité. Relevées vers les yeux, elles indiquent la sensibilité, la noblesse de cœur. Flasques et tombantes, c'est la grossièreté, la bestialité, la gourmandise exagérée, l'ivrognerie. Les pommettes saillantes, qui caractérisent le tigre, indiquent la soif de sang, la férocité chez l'homme, quand elles sont en même temps très colorées, figures 96 et 97. Chez la femme, c'est la marque d'un profond égoïsme et d'une grande sécheresse de cœur. Le menton qui, carré, inspire de la confiance et implique l'honnêteté, la droiture, devient un indice de ruse quand il est avancé, d'avarice quand il est crochu et de sensualité quand il est double. Le menton petit indique la timidité, rond et avec une fossette, la bonté, la bienveillance, fendue, c'est un signe de résolution, de virilité, de courage. Les dents n'ont donné lieu qu'à peu d'observations en raison des influences extérieures qui en modifient profondément le caractère. La force physique est l'attribut des dents petites et courtes. Blanches et bien rangées, elles annoncent l'honnêteté, la bonté. Longues et larges, la santé. Avec les oreilles, nous allons terminer l'examen des traits du visage. L'oreille large et unie est un signe de développement des facultés intellectuelles, figure 8. Plate, sans rebord, c'est un signe d'intelligence qui se complique d'entêtement quand l'oreille est collée au crâne. Les oreilles détachées, sans exagération cependant, indiquent les bonnes natures. Les cheveux n'ont donné lieu qu'à peu d'observations, leur couleur notamment se rattachant d'une façon générale au tempérament. Nous dirons seulement que les cheveux fins et soyeux appartiennent toujours aux heureuses natures et les cheveux durs, épais, raides, au caractère plus tranché, plus accusé. Ceci, bien entendu, sous réserve des climats et des circonstances qui peuvent modifier cette règle générale. Quant à l'ensemble du corps humain, nous ne suivons pas l'avatar dans toutes les divisions qu'il établit et qu'il est souvent bien difficile d'observer. Nous nous bornerons à répéter avec lui que, D'une manière générale, la vertu embellit en donnant aux traits du visage une inquiétude, une douceur que l'on ne rencontre pas chez les individus dominés par les passions brutales. Que le vice enlaidisse, personne n'en pourra douter en contemplant les figures hâves et flétries des criminels, leurs traits bas et vils, leurs regards sournois ou cyniques. Aussi, cher lecteur et aimable lectrice, comme conclusion à ce petit chapitre, nous ne pouvons que vous engager à vérifier sur vous-même l'exactitude de cette assertion. Si, comme nous le souhaitons, vous êtes déjà doué d'un physique agréable, n'en soyez pas moins persuadé que vous ne pourrez qu'augmenter vos traits et vos charmes par la pratique de toutes les vertus. Application pratique de la chiromancie et de la physiognomonie. Maintenant que nous avons indiqué d'une façon brève mais aussi précise qu'il nous a été possible de le faire, quelles étaient les règles fondamentales de ces sciences, nous allons vous enseigner le moyen le plus facile de les mettre en pratique et d'en tirer des conclusions certaines. L'ordre, en toute chose, est une condition essentielle de succès, surtout ici, où il est nécessaire de combiner les divers présages annoncés par tel ou tel signe et qui parfois semblent se contredire. Il ne faut pas procéder au hasard, il faut aller de déduction en déduction. Notre méthode est simple et facile, et nous sommes persuadés qu'avec un peu d'exercice, chacun pourra sinon devenir habile chiromancien, au moins passable physionomiste. N'aurions-nous réussi qu'à exciter l'esprit d'observation de nos lecteurs, que ce serait déjà un résultat dont ils nous seraient gré dans la suite. Prenons d'abord l'ensemble de la main et examinons-en le caractère général. La main est-elle longue, large, grasse, maigre, nerveuse ou sanguine, pâle ou colorée, molle ou ferme, moite ou sèche? Notons le résultat de cette première observation qui va nous fournir sur le tempérament du sujet les plus utiles renseignements. Pour connaître ensuite ses instincts, ses aspirations, ses facultés intellectuelles et morales, nous examinons la forme des doigts, celle du pouce en particulier. Nous voyons quel est le doigt le plus fort, le plus important comparativement aux autres, à quelle influence il est particulièrement soumis, enfin si ce doigt est carré, pointu ou spatulé, lisse ou noueux, long ou court. Regardons ensuite l'intérieur de la main, examinons-en les divers monts, et ensuite passons aux lignes. Nous interpréterons leurs diverses significations en nous reportant à ce que nous savons déjà du caractère du consultant, car il est bien entendu que tous les signes doivent se coordonner entre eux et n'ont de valeur exacte et certaine qu'autant qu'ils se complètent mutuellement. Après les signes principaux, nous passons aux lignes accidentelles et aux lignes sœurs. Nous avons vu en effet que celles-ci pouvaient jusqu'à un certain point atténuer ou même modifier le sens des lignes principales. Après avoir noté les diverses observations recueillies ainsi successivement, nous les complétons par l'étude de la physiognomonie qui nous sert alors de contrôle, et si nous avons suivi bien attentivement les règles et préceptes que nous venons d'énumérer dans ce volume, nous tomberons d'accord et sans nul doute, le résultat de notre deuxième examen concordera parfaitement avec ce que nous aurons déjà appris en premier lieu.